Document 7.
Et nous évoquons l'un des enjeux consécutifs à l'élargissement de l'Union européenne, un enjeu qui curieusement ne s'est pas invité dans le débat référendaire sur la Constitution. Il s'agit de la question linguistique. Vous savez qu'il y a au cœur de la question européenne une question maîtresse: avec quelle langue devons-nous nous parler? En quelle langue devons-nous nous parler? Et ce n'est pas une question annexe, nous allons le voir dans un instant avec vous, Hervé L'Avenir de Buffon. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Vous êtes secrétaire général du Comité international pour le français langue européenne, présidé par l'archiduc Otto de Habsbourg.
Exactement.
Vous êtes également président du Centre d'études et d'action européenne, du Comité pour la Méditerranée. Un mot peut-être du Comité international pour le français langue européenne, de l'archiduc Otto de Habsbourg, pour le resituer dans son origine historique.
Eh bien, il s'agit, l'organisation des comités pour le français langue européenne groupe maintenant une cinquantaine d'associations nationales ou régionales. J'appelle régionales par exemple les Länder en Allemagne, parce qu'ils ont la responsabilité de l'éducation. Et quel est le but de cette organisation? C'est, par des personnes non françaises, de mener une action d'information et de persuasion pour faire adopter le français, si possible, comme première langue étrangère des pays non francophones d'Europe, de l'Union européenne et du bassin méditerranéen. Je dois dire que, j'y reviendrai peut-être, ces étrangers croient beaucoup au français, à l'avenir de la langue française, et en cela on voit qu'ils sont des étrangers, parce que beaucoup de Français n'y croient plus.
Bruxelles, à une époque où c'était l'Europe des Six.
C'était l'Europe des Six, et des quatre langues officielles: français, allemand, italien, néerlandais. Mais je dois dire que l'on servait du français à 95% des travaux, pour 95% des travaux. Et ça fonctionnait très bien, sans un mot d'anglais.
C'est-à-dire que le français était déjà, de manière tacite ou naturelle, la langue de travail commune.
Absolument. Absolument, du fait que, puis enfin, il y avait les lendemains de la guerre, on n'était pas tellement loin, ça faisait 15 ans. Et puis, vous savez, entre un Italien et un Belge, il était normal de parler plutôt français que, si c'était un Flamand, qu'allemand. Et puis, le Néerlandais, je dois dire, tout se passait très bien. Et il a fallu l'arrivée de la Grande-Bretagne, le général de Gaulle et M. Pompidou s'en étaient rendu compte, pour troubler ce bel équilibre européen.
L'anglais ne s'était pas invité au cœur des débats.
Non, mais les Anglais posaient des conditions dès le départ pour accepter ce qu'ils exigeaient. C'était ainsi. Donc il y a eu ensuite, il faut bien dire, vous avez enchaîné sur cette question, je vous suis. Et nous sommes maintenant en état de guerre linguistique en Europe. Et pour deux raisons, c'est que les Anglais comme les Américains considèrent, comme Churchill, que les empires de demain sont les empires de l'esprit. Il disait « mind », je crois que ça veut dire « esprit » ou « intellect », et que on considère d'autre part que si, du côté américain, que si le monde adopte l'anglais comme langue dominante, c'est ce que m'a dit un sénateur américain un jour à Washington, ça sera beaucoup plus facile, un monde, un marché, une langue, une monnaie. Alors évidemment, on peut appeler ça aussi de l'impérialisme.
Faisons un bond dans l'histoire, revenons à l'actualité. Aujourd'hui, 25 pays dans l'Union européenne, la question linguistique est déjà un casse-tête. Il faut déjà en parler de cela.
Bien sûr, c'est un grand enjeu et je pense que tout de même le mot casse-tête appelle des solutions, et ces solutions on peut les trouver assez facilement. Ce qui est surprenant, c'est que dans la Constitution qui est soumise à référendum, comme vous le disiez, curieusement, on en parle très peu. Je dirais même que la question est pratiquement escamotée, comme celle de la capitale d'ailleurs. Un article tout petit, caché dans un coin du texte, dit que ces deux questions sont réglées par accord entre les gouvernements. Eh bien, c'est singulier, parce que la plupart des constitutions dans le monde entier règlent la question du choix de la capitale ou de la langue. Et vraisemblablement, enfin, nous y reviendrons. Cette affaire de langue, on en reparlera. Mais actuellement, on peut dire que le sujet principal, c'est de savoir non pas ce qui se passera dans les institutions, parce que, par la force des choses, chacun exige que sa langue soit respectée, mais ce qui se passera au niveau des populations. Quelle sera la langue qui permettra, vous le dites, c'est encore plus aigu à 27 qu'à 6 ou à 7 ou à 15, et le tout est de savoir comment et qu'est-ce qui permettra aux Européens d'avoir non seulement un moyen de communication et de mobilité de la main-d'œuvre, parce que si l'on parle de l'économie, c'est aussi parce que la main-d'œuvre doit pouvoir se circuler à travers l'Europe. La fameuse directive Bolkestein, c'est ça. Eh bien, comment voulez-vous que la mobilité professionnelle soit assurée sans une certaine communication linguistique d'un pays à l'autre assurée par une langue véhiculaire?
Là, vous opposez les peuples aux institutions.
Je ne les oppose pas, mais je dis que finalement, ce qui se passe dans les institutions est tout de même beaucoup moins important que ce qui se passe au niveau de la population générale en Europe. Comme le disait l'archiduc de Habsbourg, finalement, au niveau des institutions, bon, il y a un coût des traductions et interprétations simultanées.
Combien? 11 000 interprètes?
Peu de noms, pas autant, mais si vous calculez le nombre de filières de traduction, c'est-à-dire du français vers l'allemand, mais aussi du français vers toutes les autres langues, et réciproquement, on arrive à des coûts extraordinaires. Mais ce qui est important, c'est que chacun puisse s'expliquer dans sa langue, et nous, ce que nous avons proposé depuis longtemps, c'est d'adopter une langue pivot, c'est-à-dire une langue vers laquelle on traduit toutes les interventions, par exemple en français, et ensuite du français vers les autres. Ça diminue quand même considérablement le nombre des filières. Si je me suis